podcasts de Radio Vatican.
Coopérer avec une Libye en proie au chaos pour contenir les départs et arrêter les passeurs, convaincre des pays africains réticents à créer des hubs sur leur sol ou à réadmettre leurs ressortissants, et surtout débloquer la réforme des règles d'accueil des réfugiés dans l'UE. Ce vendredi 3 février 2017, les chefs d'État et de gouvernement européens se réuniront à La Valette sans le Royaume-Uni pour tenter de clarifier leur position face aux défis migratoires que représente la traversée de la Méditerranée par des centaines de milliers de personnes. Pierre Angulaire de la politique migratoire européenne. Les règles de Dublin désignent le pays de première entrée dans l'UE comme responsable principal d'une demande d'asile. Cela pose problème dans les pays du sud de l'Union européenne qui, pour des raisons géographiques, sont les portes d'entrée de l'UE comme Malte, la Grèce ou bien sûr l'Italie. Plus de 180 000 migrants africains sont arrivés en 2016 sur les côtes italiennes. Près de 100 000 d'entre eux ont déposé une demande d'asile. Rome, La Valette ou Athènes appellent en vain à la solidarité de leurs partenaires européens. Une réforme du règlement de Dublin est annoncée. Mais la répartition des migrants au sein des États de l'Union européenne est loin d'être une réalité, même en cas de pression migratoire accrue. Claire Redier est juriste logistique, cofondatrice du réseau Migre Europe. Nous revenons avec elle sur les règles européennes actuelles, les ambitions ou promesses de réforme et sur les accords signés l'an dernier avec Ankara.
Le règlement Dublin, dont la première version date du début des années 2000 et qui est un des points d'ancrage de la politique européenne d'asile, ne répond pas du tout aux objectifs pour lesquels il a été conçu, puisque c'est un mécanisme qui est censé permettre une répartition des demandeurs d'asile, répartir équitablement dans les différents États membres. Le principe de ce règlement est que c'est le pays de l'Union européenne par lequel un étranger qui fait une demande d'asile est entré en premier, qui se retrouve responsable de l'examen de cette demande d'asile. Et ce qui s'est passé depuis maintenant plus de 10 ans et qui se vérifie chaque année, c'est que ce sont les pays des frontières extérieures de l'Union européenne, essentiellement les pays méditerranéens, la Grèce, Malte, l'Italie, mais aussi les pays de la frontière extérieure orientale, qui sont, par simple raisonnement géographique et topographique, les premiers pays d'entrée. Ce mécanisme permet aux autres pays européens dans lesquels les demandeurs d'asile peuvent éventuellement accéder, de les renvoyer dans un de ces États de première arrivée. Et donc, on a constaté depuis plusieurs années une charge tout à fait excessive pour ces pays qu'on dit en première ligne. On est donc dans un mécanisme qui aboutit au contraire de l'objectif pour lequel il a été pensé.
D'autant que les nombreux appels à l'aide lancés par Athènes ou Rome et même la reconnaissance d'une nécessaire solidarité, ça n'a pas vraiment permis à cette réforme d'avancer.
Non, c'est comme si on avait l'impression que les appels à la solidarité, c'est comme s'ils étaient contre-productifs. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que plus le temps passe, plus chaque pays se recroqueville sur son propre espace territorial, sur son égoïsme national et considère qu'il ne peut pas accueillir plus de demandeurs d'asile. Donc, en fait, il n'y a pratiquement aucun mécanisme de solidarité qui existe en Europe puisque elle ne peut pas être imposée aux États membres, cette solidarité, à cause des règles juridiques qui constituent l'architecture du système d'asile européen. Et elle ne peut, et ça on le constate, visiblement pas être obtenue sur la base du libre consentement, sur la base du volontariat. Les États, à l'exception notable de l'Allemagne au cours de l'année 2015, on en a jamais vu aucun État membre qui a dit « moi, je suis prêt à accueillir plus de demandeurs d'asile qu'il n'en arrive sur mon territoire aujourd'hui ». Donc voilà, la solidarité, en réalité, elle n'existe pas.
Des ONG suggèrent plutôt que de réformer les règles de Dublin, d'y renoncer complètement. Dans quelle optique ?
Essayer de fixer des règles de répartition ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que pas mal d'organisations plaident pour la liberté de circulation des demandeurs d'asile à l'intérieur de l'espace européen, afin que ne se produisent pas des phénomènes comme on les voit aujourd'hui en Grèce, où les gens sont bloqués dans des conditions terribles. Il serait sans doute plus raisonnable, si on veut que les pays de l'Union européenne respectent un principe fondamental qui est le droit d'asile et qui est inscrit dans une convention qu'ils ont tous ratifiée, la Convention de Genève, il serait sans doute plus raisonnable de prévoir qu'un demandeur d'asile doit pouvoir déposer sa demande dans le pays où il le souhaite et non pas dans le pays où on le lui impose.
Avant la Valette, la Commission européenne promet de respecter la règle de non-refoulement, mais est-ce qu'elle n'est pas déjà enfreinte par la mise en place de cet accord passé l'an dernier en mars 2016 avec la Turquie?
C'est l'opinion de la plupart des observateurs non institutionnels. Le fait de se mettre d'accord justement avec les autorités turques pour empêcher les arrivées sur le territoire grec constitue une violation du principe de non-refoulement des réfugiés, puisqu'il est certain que la demande elle est toujours aussi forte. Le nombre de personnes qui ont accédé au territoire européen par la Grèce a diminué des 2/3, alors que la pression n'a pas du tout, elle, diminué. Les personnes principalement concernées par ces arrivées, c'était des personnes originaires de Syrie, beaucoup, d'Érythrée, du Soudan. Et on sait bien que les flux de départ de ces pays n'ont pas diminué parce que les crises qui provoquent ces départs, elles n'ont pas baissé.
On bloque aux frontières, on négocie avec les pays frontaliers. Ça fait 20 ans maintenant qu'on parle de politique du containment. Pour quel bilan?
Alors, on ne peut pas dire qu'elle est complètement inefficace. Elle a été réaffirmée, elle est même devenue un des axes de la politique d'immigration et d'asile de l'Union européenne à partir de 2004, avec l'officialisation de l'externalisation des contrôles migratoires, qui consiste effectivement à passer des accords de divers types avec des pays, soit des migrations, soit des pays de transit, pour obliger ses partenaires, moyennant des contreparties, soit financières, soit diplomatiques, enfin il y a toutes sortes de types d'accords, à gérer en amont les flux migratoires pour que les personnes n'arrivent pas jusqu'au territoire européen. Alors on peut considérer dans une certaine mesure que ces politiques ont été ponctuellement efficaces. Ça s'est passé à un moment donné avec la Libye avant la chute de Kadhafi par exemple, ça s'est passé avec le Maroc qui est devenu un pays d'accueil entre guillemets et de moins en moins un pays de transit. Mais comme toutes les politiques de durcissement du contrôle aux frontières, ça a aussi pour effet de déplacer les flux migratoires. C'est-à-dire que quand une route est fermée, quand parce qu'on est originaire de tel pays, il est impossible de sortir parce que l'accord passé avec l'Union européenne oblige le pays en question à contrôler les sorties de son territoire, comme par exemple les pays du Maghreb, les personnes qui ont absolument besoin de trouver protection vont prendre des voies clandestines beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus longues aussi. Les parcours sont plus longs. Et finalement, quand on regarde l'augmentation du nombre d'arrivées irrégulières, sachant qu'une bonne partie des arrivées irrégulières sont constituées de demandeurs d'asile, quand on regarde la courbe au cours des dernières années, on voit que la pression migratoire n'a pas vraiment diminué. Elle a même beaucoup augmenté entre 2013 et 2015. Et quand on arrive à la faire baisser, c'est au prix de la violation, justement, du droit d'asile. On ne peut pas parler d'une réussite quand on sait que ce qui se cache derrière cette réussite, c'est le fait que de nombreux demandeurs d'asile ne pourront plus, ponctuellement en tout cas, jusqu'à ce que les routes se détournent ou que la Turquie dénonce cet accord comme elle en a fait la menace à plusieurs reprises, que ces personnes ne pourront plus trouver protection en Europe.
Certains estiment que laisser des personnes dans le besoin dans des pays où la liberté est réprimée, comme c'est le cas en ce moment en Turquie, ou dans des pays en proie au chaos, où on tue, où on torture des migrants, comme c'est le cas en Libye, c'est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il faut faire attention aux formules et aux mots qu'on utilise, mais qu'il y ait une décision objective et ouverte de l'Union européenne de renoncer à ses engagements en matière de droits fondamentaux, notamment du droit d'asile, du droit de ne pas être torturé, du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, autant de droits qui sont inscrits à la fois dans les traités internationaux, mais aussi dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc vraiment des engagements qui sont censés orienter les politiques à la fois des États membres, mais aussi de l'Union européenne en tant que telle, oui, on peut dire, sans forcément parler de crimes contre l'humanité, qu'il y a une négation de ces droits qui est croissante, dont finalement l'accord entre l'Union européenne et la Turquie a été l'expression la plus cynique et la plus ouverte, parce que jusqu'à 2016, on était encore un petit peu dans l'euphémisme en parlant de aider les États tiers à mieux assurer la protection, etc., à mieux respecter les droits. L'accord signé avec la Turquie est un affichage officiel de refus d'appliquer le droit d'asile et prendre ce modèle pour le reproduire avec d'autres pays de transit des migrants, et notamment la Libye, serait finalement une réaffirmation de cette politique assumée de l'Union européenne de renoncer à ses principes.